Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être, tous les jours du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, je suis dans ce studio très bien accompagné, en sécurité, vous aussi, puisqu'il est là, c'est le docteur Jimmy Mohamed, j'en fais trop. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Non, vous n'en faites jamais trop.
Ouais, c'est ça, vous êtes brillant, c'est vrai. Allez, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons tout vous dire sur le PP, le postpartum, un sujet encore tabou, cette période de l'après-accouchement. On vient de donner la vie, on l'a décrit souvent cette période comme horrible ou à l'inverse totalement enchanteresse, eh bien la vérité elle se situe sûrement au milieu. On va voir ça en détail avec notre invitée, c'est Anna Roy. Elle est sage-femme et l'auteur du livre La vie rêvée du postpartum aux éditions Larousse. Elle va nous aider à y voir plus clair et surtout nous donner tous ses meilleurs conseils. Ensuite, dans notre chronique du vendredi bien chez soi, on va traquer aujourd'hui les moisissures, les acariens, toutes ces petites choses qui habitent nos maisons, nos appartements, comment éviter leur prolifération et surtout s'en débarrasser, particulièrement si vous êtes allergique ou asthmatique. Jimmy nous dira tout. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle reprendra les bases en ce qui concerne les discussions entre amis. Quand cela parle sexualité, jusqu'où peut-on réellement aller ?
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, on ouvre donc ce magazine santé avec le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va commencer par cette question de Denise. Écoutons-la.
L'ORL chez qui nous allons. Mon mari a pu constater dernièrement pour faire enlever un bouchon qu'il lui a fait un test d'audition, mais il n'était pas dans une pièce insonorisée. Donc, il y avait quand même les bruits ambiants. Qu'est-ce que vaut un test comme ça? Je n'arrive pas à voir les autres ORL s'ils sont bien équipés pour faire un vrai test. Ou faut-il aller dans des boutiques qui équipent les oreilles? Merci.
Merci à vous, Denise, pour votre question. Alors, pour vous répondre, on a fait appel à un spécialiste du sujet. Il est déjà venu dans cette émission. C'est le docteur Didier Boucara. Il est médecin ORL à Paris.
Cette question est effectivement très importante puisque les conditions de réalisation des tests d'audition vont conditionner à la fois un diagnostic précis et éventuellement un traitement adapté en cas de perte auditive. Pour être le plus précis possible, en fait, ces examens de l'audition répondent à des normes qui sont bien répertoriées dans des référentiels, et en particulier celui de l'AFNOR. La cabine où est réalisé le test doit être suffisamment insonorisée pour que l'environnement bruyant éventuellement ne perturbe pas la réalisation du test. La passation du test doit être faite par quelqu'un qui suit un protocole très rigoureux en recherchant oreille par oreille quelle est la perception des sons. Et puis, cela permet aussi de faire des dans le bruit, mais cette fois-ci, c'est volontairement qu'on va introduire un bruit pour la passation du test, pour voir quelle est la gêne du patient, mais ce test dans le bruit sera fait dans la même cabine.
Voilà, c'était le docteur Boucara au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va passer à la seconde question du jour, celle qui est pour vous, celle de Valérie. Écoutez bien.
Merci beaucoup pour votre émission, j'écoute très souvent. Ma question, mon frère de 37 ans a fait un pneumothorax spontané. Alors, il était fumeur, il avait arrêté depuis 2 mois, donc visiblement un peu trop tard. Je sais que c'est un facteur aggravant. Maintenant, ma question, comment est-ce qu'il peut faire pour éviter que cela se reproduise? Merci beaucoup, au revoir.
Jimmy, on va commencer peut-être par réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un pneumothorax?
Alors, c'est très simple. Vous avez le poumon qui est recouvert d'une enveloppe qu'on appelle la plèvre. Cette plèvre, elle forme 2 feuillets au sein de laquelle vous avez une petite cavité virtuelle où règne une pression négative. Le pneumothorax, c'est l'apparition d'air dans cette cavité qui va venir ratatiner le poumon. Résultat, vous avez du mal à respirer et vous avez ce pneumothorax.
Et donc, elle signale, donc, dans le cas de son frère, 37 ans, ancien fumeur, vraiment, il avait arrêté depuis 2 mois. Elle dit, le tabac, est-ce que le tabac peut réellement causer ça? C'est quoi les autres facteurs de risque s'il y en a aussi?
Alors, le tabac, c'est un facteur de risque majeur de pneumothorax, en particulier chez les sujets jeunes qui ont souvent moins de 35 ans, mais 37 ans, on n'est pas loin, qui sont assez grands, longilignes. Et on sait que dans 3/4 du temps, eh bien, ils sont fumeurs. Et donc, c'est un vrai facteur de risque. Mais il n'y a pas que le tabac, il y a aussi le cannabis. Donc, ça, c'est les facteurs de risque, on va dire, du pneumothorax spontané sans cause retrouvée. Et puis, vous avez certaines maladies pulmonaires, comme la bronchite chronique, la mucoviscidose, qui peuvent former ce qu'on appelle des bulles au niveau du poumon. Et ces bulles, malheureusement, peuvent éclater et donner un pneumothorax secondaire. Et enfin, lorsque vous avez une agression, si jamais on vous plante un coup de couteau les côtes, vous allez avoir de l'air qui va arriver dans la plèvre et donc, encore une fois, un pneumothorax, cette fois-ci, qui sera post-traumatique.
Très bien. Alors, est-ce que c'est une urgence, le pneumothorax? On ressent quoi? Parce que vous avez décrit donc soit cette bulle qui éclate, cet enfoncement. Enfin, qu'est-ce qu'on sent dans son corps et est-ce qu'il faut vite courir aux urgences à l'hôpital?
Le symptôme principal, c'est une douleur thoracique d'apparition assez brutale qui va peu à peu s'estomper et va persister quasiment une douleur sur un bruit de fond. pas très important, mais qui va se majorer par l'inspiration profonde et lors de la toux. À ce moment-là, souvent, les gens, soit ils vont chez leur médecin traitant parce que finalement, ils n'ont pas tant de douleur que ça, soit la douleur est telle qu'ils atterrissent aux urgences. Et dans ces cas-là, on fait une radio de thorax.
Qui confirme ça.
Exactement. Et c'est assez facile. Même un étudiant en médecine peut faire le diagnostic.
Et ça se traite de quelle façon ensuite, alors ?
Il y a plusieurs techniques. La première, on peut ne pas le traiter. Lorsque le découlement du poumon est tout petit, fait moins de 2 cm, eh bien, on considère que ça va se résorber de façon spontanée. Et lorsque ça ne passe pas, il y a deux possibilités. Soit il y a une situation d'urgence car vous suffoquez, car le pneumothorax va venir comprimer les cavités cardiaques. Dans ces cas-là, on fait une exsufflation en urgence. On vous plante une petite aiguille au niveau des côtes.
On voit ça dans les séries de médicales.
Exactement,
parfois,
juste l'aiguille. Ou alors, dans certains cas, on met un drain thoracique justement pour aspirer l'air et se débarrasser de ce pneumothorax.
Très rapidement, pour répondre encore précisément à Valérie, elle dit qu'est-ce qu'il peut faire pour éviter que ça lui arrive encore ? On peut éviter la récidive.
La récidive est fréquente, c'est 30% lors d'un premier épisode spontané. Et lorsque vous récidivez, vous avez ensuite 60% de récidiver. Ce qu'on conseille, c'est un, d'arrêter le tabac. Et puis, lorsque ça ne marche pas, lorsque c'est récurrent, on fait ce qu'on appelle un talcage pleural, c'est-à-dire qu'on va colmater cette plèvre pour éviter que de nouveau de l'air s'immisce. Et dans ces cas-là, dites au revoir au pneumothorax.
Bon, c'était très clair. Vous m'impressionnez toujours, Jimmy.
Encore
au bout d'un an et demi, c'est incroyable. Merci, Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Anna Roy. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors vous êtes sage-femme, mais aussi créatrice du podcast Sage Meuf, qui est produit par Europe 1. On est très fiers de le rappeler, évidemment. Alors si on vous reçoit aujourd'hui à nouveau, parce que vous étiez déjà venue dans cette émission, c'est parce que vous venez de sortir un livre, La vie rêvée du postpartum, qui est publié chez Larousse. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, pourriez-vous nous expliquer en détail ce que signifie le PP pour les intimes, le postpartum ? Il y a des étapes en plus, hein, mais ça comprend quelle période exactement ?
Alors en fait, on voudrait s'arrêter à la définition médicale, qui serait cette période entre la sortie du placenta et le moment où l'on retrouve ses règles, mais en fait ça c'est une définition médicale qui correspond à rien pour les gens. Moi j'aime bien dire que le postpartum dure 3 ans. Au bout de 3 ans, une femme, je le vois bien avec
moi,
mes patientes.
Moi j'allais vous dire au moins 6 mois chez moi, j'ai l'impression que ça a duré. Mais
non, moi je suis carrément, je dis 3 ans. Je pense qu'au bout de 3 ans on retrouve la forme qu'on avait avant. Le seul problème c'est qu'il y a plein de femmes qui ont remis un enfant en route dans cette période là et que du coup moi j'ai des patientes, j'ai une patiente là j'aime bien parler d'elle.
Ça peut durer 8 ans.
Ça fait 10 ans qu'elle est en postpartum et je crois que c'est vrai, c'est-à-dire qu'elle me dit mais je vais être comme ça toute ma vie. Je dis non,
la
ça
lumière au bout du tunnel arrive.
Non mais c'est vrai qu'il y a un moment on retrouve sa forme parce qu'on croyait qu'on était définitivement grillé. En fait, ce n'est pas vrai. On retrouve sa forme.
Bon, ça, c'est une bonne nouvelle déjà.
Alors, vous expliquez que le vécu de chaque femme sur son postpartum est assez différent. Et même quand l'accouchement se passe très bien, il peut être compliqué à vivre, notamment pour certaines femmes.
Ah oui, il n'y a pas de règle. Parce qu'on voudrait. Alors, c'est génial, la parole se libère sur les réseaux sociaux et je m'en félicite tous les jours. Mais il y a un truc, c'est que chacun donne sa version du postpartum, sa propre version. C'est vrai que moi, je vois toutes sortes de femmes, toutes sortes de milieux, toutes sortes de choses et je vois bien qu'il n'y a aucun postpartum qui se ressemble. Il y a des femmes qui ont des accouchements hyper durs qui vont s'en remettre très vite. Il y a des femmes qui ont des accouchements hyper faciles qui vont être entraînées pendant des mois, voire des années à se remettre de ça. Donc, oui, chaque femme a son postpartum.
D'accord. Alors, pour vous, les premiers jours sont les plus importants car pour beaucoup, en tout cas, on dit souvent, il y a ce fameux instinct maternel qui arrive là, on a le bébé dans les bras, pouf, non. Ça nous tombe dessus. Non. Franchement, on est d'accord, c'est un mythe. Hein.
Non mais ça c'est vraiment n'importe quoi. Ça, il faut vraiment sortir ça de la tête des
parce
gens.
Que celles qui l'ont pas, elles se disent oh là là.
Non,
je l'aime
non,
pas,
l'instinct
cet enfant, c'est
maternel
ouais.
N'existe pas. Nous ne sommes pas des animaux. Il peut pas y avoir d'expression comme ça invariable innée chez des êtres humains. Nous sommes pas des animaux et donc il n'y a pas d'instinct maternel.
Ce qu'on voit à la télé là, les femmes on leur prend dans les bras.
C'est
les...
assez atroce
je l'aime,
en fait.
J'ai toujours su que j'étais faite
mais
pour
non,
ça.
Mais non, parce qu'en plus surtout qu'on est souvent épuisé par l'accouchement et que donc il faut juste qu'on récupère physiquement. Certaines elles ont besoin de attendez 2 secondes quoi. On verra après. Et d'ailleurs je veux rassurer les femmes, vous avez toute la vie pour aimer votre enfant donc calmos.
Ouais, on n'est pas obligé dans les 3 minutes.
Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un instinct du petit sur ses parents, ça je suis persuadée. On le voit bien quand un enfant naît, il capte le regard.
Il grimpe parfois sur nous.
Et puis il regarde et en fait, il veut aller choper l'amour de ses parents. Mais l'instinct de la mère, non, pas plus que l'instinct du père.
C'est ça.
Alors, vous fournissez...
Ça déculpabilise tout ça.
Carrément, vous fournissez dans votre ouvrage un guide de survie à la maternité. Alors comment ça se passe une journée type à l'hôpital, ensuite de couche pour celles qui ne sauraient pas encore comment
alors,
c'est
voilà.
La
alors
la
souvent,
réalité.
Décrivez-nous ce bonheur.
Souvent, elles se disent, oh la salle d'accouchement, c'était quand même pas mal, elles aimaient bien parce qu'elles ça allait. Elles arrivent ensuite de couche, elles font oh! Parce qu'elles s'attendaient à voir le Club Med, je sonne, j'en ai un. En fait, c'est l'enfer.
Belle, on est toutes seules toute la journée avec un machin, on sait pas ce
et
quoi.
Et puis
faire.
Si vous voulez, ça défile dans la chambre, c'est-à-dire que pile vous endormez, clac, il y a quelqu'un qui. Alors c'est le jeu, hein, on est à l'hôpital, comme je dis souvent, et il se dit un peu violemment, c'est on n'est pas à l'hôtel, mais c'est vrai.
Ah
et
non, du... c'est vrai, ouais, c'est vrai.
Voilà, donc c'est pas le Club Med, et souvent les femmes sont très déçues. C'est-à-dire que du matin, de 6h jusqu'à 22h, bah, vous avez des passages que vous ne décidez pas, etc. Donc c'est épuisant le séjour à la maternité. C'est pour ça que les femmes qui s'en sentent capables et qui ont des sages-femmes à la maison, etc., rentrez chez vous, vous serez aussi bien.
C'est génial avec la sage-femme à la maison, je confirme. Alors bien sûr, pendant la grossesse, le corps change, là, ça on le sait. Et puis quand c'est fini, quand on accouche, on le sort ce bébé, bah, ça revient pas en un claquement de doigts, bien sûr. Il y a des choses dont on ne nous parle pas forcément quand on est enceinte. Moi, par exemple, je ne savais pas, maintenant je l'ai connu, mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir encore des contractions, mais plusieurs jours après, quoi. Hein, ça s'appelle les tranchées, je crois.
Voilà, c'est ça, ouais. Les tranchées, ça c'est une des grandes surprises. Les femmes, elles se disent, j'ai accouché.
Et puis, alors, au deuxième, je dirais aussi que c'est encore pire, hein, parce que je ne savais pas, moi.
Plus vous avez de grossesse, pire c'est.
D'accord, ok.
Donc c'est.
Vivement la troisième, alors là.
Mais c'est quoi? C'est les mêmes que pour l'accouchement?
Bah, en fait, votre utérus, il s'est distendu jusqu'à être de la taille d'une pastèque. Il faut bien qu'il retrouve sa taille de clémentine corse. Et pour ça, il faut qu'il se contracte. C'est mathématique. Donc, oui, les femmes, elles se sentent trahies. Elles disent même, elles rentrent ensuite de couche dans leur cerveau. Elles disent, attendez, j'ai encore mal. Qu'est-ce que c'est que ce bazar?
C'est ça. J'ai fait le boulot. J'ai fait plus dur.
Donc, il faut les prévenir. Et surtout, il faut leur donner des antidouleurs parce que avoir mal pour ça, ça ne sert à rien.
C'est voilà. Vrai.
Alors, quand il n'y a plus de tranchées, il y a encore des saignements, notamment dans des pertes de sang qui suivent l'accouchement. On appelle ça les lochies ou les lochies, je ne sais jamais quand est-ce qu'on les prononce.
Moi non plus.
Dites-le comme vous voulez, lochies, lochies.
Mais bon. Du coup, ça n'a rien à voir avec les règles, ce n'est pas un nouveau cycle qui est en train d'arriver.
Et non, non, il faut, effectivement, on a des saignements. Alors, celles qui ont de la chance, ça va durer 10 à 15 jours. Celles qui ont moins de chance, ça va durer 6 semaines.
Déjà, 10 à 15 jours, c'est chiant.
Alors, vous inquiétez pas, ça se tarie un peu quand même. Ouais, mais des fois, ça revient, ça repart. Oui, c'est pénible.
Les premières règles, justement, après l'accouchement, est-ce que ça revient déjà à partir de quand, à peu près? Et puis, est-ce que c'est de nouveau les mêmes règles qu'avant? Ou est-ce qu'une fois qu'on a eu un enfant, ben, on est différente et c'est des règles qui vont être, j'en sais rien, plus abondantes, plus douloureuses?
Alors, pour quand est-ce qu'elles reviennent? J'en sais rien. Et la définition l'ivresse, normalement, c'est 6 semaines après l'arrêt de l'allaitement ou 6 semaines après l'accouchement. Mais ça, c'est dans les livres de médecine.
En vrai, on ne sait pas trop.
En fait, ça va reprendre, mais quand, je ne peux pas vous dire.
Et c'est les mêmes règles ou pas qu'avant?
Oui, alors même, il y a des femmes qui se réjouissent plutôt, qui disent « Ah, c'est peut-être c'est moins douloureux, c'est moins long », mais des fois, ce n'est pas vrai. Bon, en fait, il n'y a pas de règles.
Pas de règles, vous verrez bien.
Alors, c'est vrai qu'on est, vous avez raison, on est très fleur bleue sur l'accouchement, mais on oublie que c'est aussi des cicatrices de césarienne, des déchirures, des épisiotomies. Et que du coup, pour bien cicatriser, il faut aussi pouvoir se reposer. Et là, vous dites, on s'occupe de bébé.
Et c'est tout.
Voilà, et c'est tout. Et le reste, bon, bah, c'est le conjoint.
Exactement. Non, mais ça, vraiment, enfin, il faut comprendre que dans certaines autres cultures, les femmes.
C'est pour ça qu'on
fait pas
qu'une émission pour les femmes, là. Hein, non, les hommes nous écoutent, hein, ouais.
Il faut considérer une femme qui vient d'accoucher au moins les 6 premières semaines comme une sorte de demi-dieu que vous avez à domicile. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire le ménage, elle ne doit pas faire la vaisselle, elle ne doit pas faire la bouffe, elle ne doit rien faire. Quoi.
Les femmes vont vous adorer, là.
Mais c'est vrai, je le pense sincèrement. Mmh. Vraiment. Enfin, alors, si le conjoint ne peut pas rester parce qu'il bosse, et il y en a beaucoup qui bossent.
Il faut se faire aider par une grand-mère, n'importe qui, mais une amie.
Ouais, il n'est pas question de tout faire alors que vous avez un bébé à vous occuper, c'est déjà énorme. Ouais.
On est sur la cicatrice, justement. Pour les femmes qui ont eu une césarienne, donc qui ont une grosse cicatrice sur le ventre, il y a des petites astuces comme ça, pratiques, maison, on va dire, notamment de se fabriquer une culotte particulière pour éviter d'avoir mal sur la cicatrice.
Oui, souvent, les élastiques des culottes normales tombent pile sur la cicatrice, ça fait mal et ça entrave la cicatrisation. Donc soit vous prenez une vieille culotte que vous avez, vous faites une entaille de façon à ce que l'élastique tombe pas dessus, soit vous prenez carrément des culottes hyper taille haute, quoi.
Jusqu'en haut.
Ouais, et parfois la cicatrice elle est douloureuse, alors certains traitements peuvent aider mais c'est souvent insuffisant. Et là vous dites que le froid peut être un allié et donc on peut essayer de se soulager avec du froid, mais de quel froid on parle?
Alors oui, vous pouvez prendre par exemple un sachet de petits pois congelés que vous appliquez sur le ventre, mais attention à la douleur, c'est-à-dire que vous traitez la douleur comme ça seulement si vous avez été vu par une sage-femme, par un médecin. Parce que attention, les femmes ont tendance, après l'accouchement, elles se disent ah non, il peut rien m'arriver.
Ouais, puis le monde médical, voilà, on n'a plus envie trop.
Alors,
de.
Non, surtout pas. En fait, on veut bien que vous fassiez ça quand vous, si vous êtes surveillé, si vous n'êtes pas surveillé. Vous faites venir une sage-femme, vous faites venir un médecin qui vérifie votre cicatrice.
Mais
avant.
Pourquoi la vérifier? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Une surinfection?
Parce qu'il peut y avoir une surinfection, il peut y avoir un abcès, peut y avoir un hématome, tout un tas de choses. Donc quand même, on est sur une cicatrice de chirurgie quand même.
D'accord. Et en tant que jeune maman, il y a un truc aussi qui est quand même très important et qui va nous manquer pendant un certain temps, c'est le sommeil. Est-ce que là, vous avez 2-3 conseils à donner à celles qui nous écoutent?
Non.
J'adore votre répartie. Non, d'accord. Bah, vous dormirez pas. Voilà. Okay.
Non. Il faut effectivement. En fait, il faut traiter le sommeil comme une priorité absolue. C'est-à-dire carrément le noter dans votre agenda. Moi, c'est ce que je faisais. Moi, je faisais sommeil. Je mettais des plages dans mon agenda partagé avec mon mari. Mais ça dépend. Il y a des femmes qui le vivent très bien. Moi, j'ai par exemple très très mal vécu. Je trouve que ne pas dormir, c'est une torture.
Moi aussi.
Se faire réveiller toutes les 2h30, j'ai très mal vécu, quoi. Ouais. Et toutes les femmes le vivent très mal. Enfin, arrêtons de mentir.
Faire, quoi, tellement.
Alors, évidemment, vous avez 10% de femmes qui disent oh, mais c'est merveilleux, c'est magnifique. Moi, non. Moi, je trouve pas ça merveilleux, magnifique.
J'adore. Merci, Anna Roy, de votre franchise. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Et notre invitée, elle est toujours avec nous, c'est Anna Roy. Merci d'être avec nous. Vous êtes sage-femme et vous venez aujourd'hui nous parler de votre livre La vie rêvée du postpartum, qui est paru donc chez Larousse. Alors, on va désormais aborder le sujet de la charge mentale que vous détaillez avec précision dans le bouquin. Et vous appuyez d'ailleurs sur votre vécu. Moi, j'adore ça parce que vous êtes une sage-femme et vous êtes aussi, vous avez été, vous êtes une maman, une jeune maman, je veux dire, avait été évidemment. Comment vous la définiriez-vous, cette charge mentale de la jeune maman en postpartum, quoi?
C'est un truc de malade. Et ça, on n'est pas prévenu. C'est-à-dire que avant d'accoucher, moi, parce que j'ai pas mal étudié du coup sur la question, en fait, vous avez 8 heures de temps supplémentaire à consacrer, qu'il faut trouver, on ne sait pas où, puisque en fait, on vous a pas raccourci votre temps de travail, etc. Et vous avez dans ces 8 heures de plus de charge de travail.
8 heures, vous l'avez chiffré, hein?
Ouais, avez grosso modo 3 heures de temps domestique en plus, vous avez 3 heures de temps parental incompressible et vous avez 2 heures à peu près de charge mentale.
C'est génial, c'est la première fois que j'entends un chiffre.
Hein, c'est 8 heures, moi je trouve ça génial, ça change tout.
Ouais,
c'est
8
heures. Et ça,
quoi.
C'est le minimum, c'est-à-dire c'est un bébé qui va bien, qui est en bonne santé, qui est pas malade, dont il faut pas s'occuper, etc. Enfin, plus que de raison en tout cas. Enfin,
je pense qu'il y a beaucoup de filles qui reprennent leur pilule là. Tout
non mais non, parce qu'en même temps, ça permet de se dire quand on galère, parce que moi j'ai galéré. On m'aurait dit ça, j'aurais dit ah bah ça va, finalement je m'en tire pas si mal avec cette charge supplémentaire. Donc 2 heures de charge mentale, ouais, ça c'est au minimum, c'est au bas mot, c'est 2 heures.
Waouh.
Mais du coup, on fait comment? On se fait aider avec son partenaire qui lui n'a pas la même charge mentale et n'a pas ses 8 heures supplémentaires. On essaie de se répartir un peu les tâches.
Ah ouais, alors il faut vraiment. Moi, c'est ce que... alors le conseil de défense est devenu un terme très à la mode, mais moi c'est ce que je fais en famille, c'est-à-dire que vous vous réunissez, tu sais pas, tous les mardi, c'est conseil de défense. Et là, vous allez mettre en place une stratégie. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être comptable. Si la comptabilité est mise au service du couple et de la famille, pourquoi pas? Si au contraire, c'est une façon de se reprocher, putain, toi, t'as fait nanana, ça ne va pas. Mais là, vous pouvez dire, bah non, là, moi, je ne vais pas pouvoir gérer. Ouais, il faut se répartir.
Ouais, c'est intéressant.
Alors,
bien sûr. Vous dites, vous parlez du baby blues, hein, du baby blues, pardon, dans le bouquin, évidemment, ça fait partie du lot, on va dire, avec le postpartum, et qu'il se distingue, donc, vous le décrivez, par des sautes d'humeur constantes, mais qui alternent rire, pleurs, culpabilité, amour fou. Est-ce que finalement, c'est une étape vraiment incontournable? Toutes les femmes vont y passer.
Mais bien sûr que oui. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, c'est tellement inouï. On vient d'accoucher, on vient de donner au monde une nouvelle personne, et on voudrait sortir de ça comme si c'était rien passé. Mais c'est impossible. C'est comme si on demandait à un militaire qui revient d'une opération militaire d'être tout à fait normal. C'est impossible. Quand on a vécu des choses hyper intenses, hyper fortes, on ne peut pas être comme si ça ne s'était rien passé. Donc oui, on rigole, on pleure, on a peur, on est là, là, là,
bon, ça,
normal.
C'est classique, quoi.
C'est le... ouais.
Mais pourquoi est-ce qu'on a ce baby blues? Souvent, on avance un problème hormonal. On dit, vous inquiétez pas, c'est la chute des hormones, c'est comme ça, faites avec.
Ouais, oui, alors peut-être qu'il y a aussi un contexte hormonal. Après, rendre les hormones responsables de tout...
Il y a le psychologique aussi, c'est un traumatisme.
C'est en fait, on est complètement sidéré, c'est bien normal. Mmh. Le tout, c'est qu'il ne faut pas que ça s'installe dans le temps.
Il n'y a pas l'isolement qui joue avec aussi, parce qu'on est tout seul désormais. Avant, on avait maman à la maison, dans certaines communautés.
Exactement, ça change tout. C'est-à-dire que la famille nucléaire, papa, maman, les enfants, c'est une catastrophe en fait. Parce que quand on arrive, pour peu que le mari bosse, et vous êtes seul 24 heures sur 24, vous êtes
très angoissant ces périodes-là. On parle de plus en plus du daddy blues, il faut toujours être équitable en ce moment. Ça existe vraiment ou pas? Franchement, bon, voilà.
Ils sont fragiles, les papas, là, quand même, franchement. Daddy blues. Non, sérieux, ça existe?
Ouais, ça existe.
Elle a pas l'air convaincue.
Oui, ça existe. Ouais. Mais c'est plus à distance. Non, mais il y a des pères qui encaissent qui ont du mal à encaisser le choc aussi. Ouais. C'est vrai que les nuits sont pas assez hachées seulement pour les femmes.
Alors, être une mauvaise mère, c'est quand même une chose qui fait peur à beaucoup de femmes quand elles deviennent maman. On se met une pression monstre. Quel est votre conseil, si vous avez l'habitude d'en donner un en particulier, pour relâcher un peu cette pression? On l'aura tout à un moment donné, cette question. Est-ce que je suis une bonne maman?
Mais bien sûr qu'on se la pose et c'est bien normal de se la poser. Toutefois, je peux vous rassurer tout le monde, on est la meilleure mère pour l'enfant qu'on a. Et ça, je peux vous assurer que c'est vrai. Enfin ça, alors là, je l'ai vu avec toutes mes patientes, à part exception faite, vraiment, toutes les femmes sont les meilleures mères pour leurs enfants et les pères, pareil.
J'aurais bien aimé que vous veniez chez moi quand je venais
non,
coucher,
mais ça, vraiment,
ça m'aurait rassuré
souvent,
un peu.
Souvent, vous nous demandez des conseils, mais je dis, mais c'est vous qui savez, c'est pas moi.
C'est vrai.
C'est vous le chef. Enfin, je veux dire, souvent on se dit, ah non, mais j'ai pas le droit, je peux pas faire ça. Mais si, mais vous êtes le.
Écoutez-vous, faites-moi confiance.
Mais oui, mais en fait les femmes ont toutes les ressources, il faut juste les faire sortir, c'est tout.
Alors, on l'a vu, le baby blues, c'est quelque chose d'assez fréquent, mais finalement ça passe. Et à ne pas confondre avec la dépression du postpartum. Comment est-ce qu'on fait la différence du coup?
Là, c'est beaucoup moins rigolo. C'est un état qui survient plus tard, on va dire à partir de 15 jours, en général pas avant 15 jours. Et c'est vraiment un état dépressif avec tous les symptômes de la pression qui sont quand même hautement désagréables. Et auquel s'ajoute en plus un sentiment de difficulté du lien de l'attachement avec le bébé. Il y a des choses qui sont pas nettes. Il y en a un pic en particulier entre 2 et 4 mois. Mais pour moi, la plupart des dépressions, en tout cas en France, sont dues aux conditions de vie, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est quand vous faites, parce que les femmes reprennent le boulot à ce moment-là, elles dorment pas la nuit, elles bossent le jour, bah ouais, elles sont déprimées, c'est QFD. Après, des femmes qui ont vraiment une vraie dépression clinique, il y en a, mais je pense que c'est finalement assez rare.
Il y a une échelle de dépression postpartum d'Édimbourg. Est-ce que vous nous expliquez
ce
que c'est?
Ah ouais, c'est génial.
Et à partir de quel barreau finalement voilà, il faut s'inquiéter de l'échelle.
Non mais ça vraiment, moi je dirais même toutes les femmes à 3 semaines de leur postpartum, faites-le.
On peut le trouver sur internet.
Voilà, c'est ça. Vous le faites à 3 semaines, 1 mois après l'accouchement et puis 3 mois après l'accouchement aussi.
Dépression postpartum, EPDS, échelle d'Édimbourg.
Ouais, ouais, vous mettez EPDS sur internet, test EPDS. Et là, si vous voyez que vous avez un truc qui colle pas, eh ben vous faites venir une sage-femme, vous allez voir votre médecin généraliste, vous allez à la PMI, n'importe où.
Vous allez voir un psychologue.
Enfin, voilà, mais en tout cas, vous allez chercher de l'aide. Mmh. Et après, si ça se trouve, ce ne sera pas du tout une dépression et très bien.
Mais posez-vous la question, ça devrait être systématique quasiment.
Alors, quand on parle de bébé et d'accouchement, on pense forcément à l'allaitement. Et là encore, certaines femmes ou mamans pensent que c'est une étape obligatoire et que parfois le corps médical pousse un petit peu.
Oh,
qu'est-ce que vous leur dites, vous, à ces mamans?
Je leur dis que ce n'est pas moi qui allaite et que donc c'est à elles de faire leur choix. C'est-à-dire qu'évidemment, moi je suis sage-femme, je suis obligée de dire que.
C'est bon pour bébé.
Le lait humain, c'est ce qu'il y a de meilleur pour les bébés humains, comme le lait de vache, c'est ce qu'il y a de meilleur pour les bébés vaches et ainsi de suite. Toutefois, voilà.
Une femme qui vous dit, en préparation, par exemple, à l'accouchement, moi, bon, bah, franchement, l'allaitement, c'est plutôt non. Vous n'allez pas essayer de la convaincre
Non, je dis, mais moi, c'est un peu comme la péridurale, surtout, je dis aux femmes de ne pas se projeter. Accoucher, et puis vous verrez.
Ouais, parce
qu'il y a des femmes
plus
qui se surprennent dans les deux sens. Il y a des femmes qui disent, moi, j'allais être pendant 2 ans, qui, au bout de 15 jours, disent, au secours. Et l'inverse, c'est des femmes. Donc, vous verrez bien.
Alors, on a parlé un petit peu justement de la modification du corps liée à l'accouchement. Et logiquement, lorsque le bébé sort, eh bien, il va perdre un peu de poids. Et certaines pensent que lorsqu'elles vont allaiter, eh bien, il va reprendre encore plus vite que s'il prenait un biberon artificiel. Là encore, ce n'est pas tout à fait vrai, en tout cas au début.
Ah oui, oui, non, c'est pas vrai. L'allaitement, ça, il faut du temps pour que ça se mette en place. Il faut accepter là encore d'être accompagné. C'est naturel, oui, quand on est entouré de sœurs, de cousines, de nanas, d'amis, etc. En France, aujourd'hui, en 2020, c'est quasiment plus le cas. Et donc, il faut être aidé par des gens extérieurs et se laisser le temps que le bébé reprenne du poids, absolument.
Puisqu'on parle d'allaitement et de poids, la femme aussi qui est à l'aise, on entend souvent que elle va perdre du poids plus rapidement parce qu'on a tout envie à un moment donné de retrouver son corps, même si ça peut être très long, je ne sais pas combien en moyenne d'ailleurs. C'est vrai que quand on allaite, on maigrit plus vite?
Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est les chattes. Vous voyez sur les boîtes de croquettes pour chats, il y a écrit chatte gestante, chatte allaitante, ration de croquettes supplémentaire.
D'accord, j'ai eu peur quand vous avez commencé à dire c'est les chattes, mais allez-y, continuez.
Et donc, en fait, ça prouve bien qu'on a on a besoin d'une ration calorique supplémentaire.
On est un peu des animaux alors finalement, nous
non,
aussi quand
non,
même.
Mais non, mais ça, c'est-à-dire qu'en fait, produire du lait gras, bah, le gras, il faut bien qu'il vienne de quelque part.
Oui, donc ça va le piocher.
Voilà. Ouais. Mais le problème, c'est que souvent, quand on allaite, on a hyper faim et hyper soif. Donc il faut.
Ça n'a pas de l'argument en tout cas pour décider d'allaiter.
Bah, moi, je vois mes patients, ils disent ah bah j'allaite. Ah, je dis ah non, bah là, ça ne marchera pas.
Oui, parce que moi, j'ai grossi pendant mon allaitement. Voilà, alors ça. Du coup, vous m'inquiétez un peu, mais d'accord.
Alors, autre petite on va dire subtilité, ou je ne sais pas si c'est une nouvelle joie, c'est que lorsqu'on a accouché, on perd aussi ses cheveux et on oublie ça.
La perte de cheveux. C'est pas prévenu forcément non plus, ça, c'est vrai. Hein.
Ça, c'est pas drôle, parce que surtout quand on est enceinte, on a une crinière magnifique et on se retrouve avec des poignées de cheveux dans les mains. Bah oui, c'est pas drôle. Et là encore, qu'est-ce qu'il faut faire?
Pourquoi vous ne prévenez pas non plus de ça?
Voilà, on le dit, ça sert
à ça, cette émission.
Ouais,
merci.
C'est normal.
Anna, pour ces précisions, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant et on va poursuivre cette immersion dans l'après-accouchement, le pépé pour les intimes, le postpartum. Et justement, on va passer à des questions plus intimes, notamment autour de la sexualité. Comment faire pour que ça se déroule au mieux, sans pression et dans le plaisir? Tout ça juste après un peu de musique. On va écouter le chanteur The Weeknd avec ce titre « Save Your Tears ». chanteur The Weeknd sur Europe 1 avec son titre Save Your Tears.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et elle nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, Anna Roy, vous êtes sage-femme et je rappelle que vous êtes l'auteur du podcast Sage-meuf, produit par Europe 1. Alors, on débriefe avec vous ce qu'est le postpartum et comment, surtout, grâce à vos conseils, arriver à gérer cette période au mieux. Une période pas facile, on va continuer tout de suite avec le périnée, qui prend bien souvent un coup, faut le dire, avec la grossesse et l'accouchement. Mais qu'est-ce que c'est exactement le périnée? Peut-être un petit mémo, un petit rappel là.
Allez, on va dire que c'est un hamac de soutènement qui permet que tous les organes du ventre restent à l'intérieur du ventre. On n'a pas de périnée, les intestins, tout tombe par terre, à travers le bassin.
C'est un petit peu utile.
Non, mais c'est vachement important. C'est l'ensemble de toutes les parties molles, on appelle ça en médecine, qui ferme le bassin. C'est vachement important, le périnée.
Quand il marche plus, c'est la cata.
Ah bah, c'est très compliqué.
Ouais. Du coup, on comprend que pendant l'accouchement et la grossesse, le périnée en prend un coup. Et pour lui redonner justement toute son énergie et son tonus, eh bien, il faut faire de la rééducation. On fait ça comment et à partir de quand on peut la commencer?
Alors, c'est un peu pénible, il faut bien le dire.
C'est horrible.
Ça commence 6 à 8 semaines après l'accouchement, auprès d'une sage-femme ou d'un kinésithérapeute qui aime le périnée. Parce que souvent, on dit sage-femme ou kiné, il y a pas de corporation. À avoir, c'est juste une question de qui aime le périnée, qui ne l'aime pas chez les professionnels de santé. Et voilà, et il faut faire une séance hebdomadaire, voire deux séances hebdomadaires. C'est assez pénible.
C'est pénible, en plus, on y va avec le bébé, là, moi, c'était horrible. Hein, il pleurait à côté pendant que je faisais ma rééducation. Franchement, c'est un cauchemar.
Mais c'est vachement bien, et il faut quand même dire aux femmes que c'est une chance, en fait, pour elles. Et que malheureusement, avant la grossesse, en tout cas en France, c'est pas prévu, mais souvent les femmes ont des périnées très abîmées avant même d'être enceinte.
Est-ce qu'il y a une seule sorte de rééducation possible du périnée? Parce que vous avez dit qu'il faut choisir son professionnel en fonction du fait qu'il aime ou pas le périnée, mais est-ce qu'il y a plusieurs techniques aussi?
On va dire qu'il y a deux grandes techniques, manuelles, donc avec les doigts du praticien ou avec la sonde.
Vous avez une préférence?
Oui, quand même. Je pense que manuel, en général, ça marche mieux. C'est plus... Alors, la sonde peut être importante
pour chasser ça. C'est plus engageant pour la femme, peut-être?
Oui, puis ça fait vraiment travailler. C'est plus subtil entre des doigts d'un praticien et une sonde. C'est quand même plus subtil des doigts. Et donc, on arrive à faire un travail beaucoup plus efficace et beaucoup plus sur la durée.
Mais qu'est-ce qu'on risque si on ne fait pas cette rééducation? Puisqu'on pourrait se dire.
Elle a dit tout tombe, les intestins par terre.
Mais tout tombe, mais ça veut dire quoi? On va faire un pipi dessus. Et si on a une autre grossesse, est-ce qu'on va aggraver d'autres choses?
Vous voyez votre périnée comme un capital. C'est un peu comme le capital veineux. Plus on le laisse se détériorer, plus il va se détériorer, plus on aura du mal à le récupérer. Et donc, les symptômes, ça va être aussi bien de vous allez dans la piscine, une béance, c'est-à-dire vous allez dans la piscine, vous recrachez l'eau de la piscine après en être sorti.
C'est l'épée vaginale,
C'est les fuites urinaires, c'est des fuites au gaz, c'est des sensations
donc j'allais vous
de pesanteur.
Dire, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé quand même.
Ah non,
hein,
mais faites-le, vraiment.
Pour vous,
c'est...
Quoi,
ouais. Non, non, mais ça change la vie. Et puis même pour la sexualité, c'est vachement important.
Si on fait une césarienne, est-ce que du coup, elle est nécessaire ou c'est du cas par cas, la rééducation?
Non, tout à fait nécessaire, parce que ça se trouve, vous aviez un périnée déjà qui était un peu abîmé avant la grossesse. Et en plus, votre bébé, il a pesé 9 mois.
Mais c'est pas juste le fait d'avoir sorti le bébé par la voie basse,
ah
hein,
ouais,
c'est pas que ça.
Complètement. Ouais. Il a appuyé pendant 9 mois sur les muscles périnéaux pendant tout le temps de la grossesse.
Endommagé, d'accord.
Sport et périnée, est-ce qu'il y a certaines pratiques sportives qui peuvent chouchouter le périnée ou au contraire peut-être l'aggraver?
Oui, en fait, tous les
sports... Le vôtre, il ne doit pas être en forme, Jimmy, hein, parce qu'il ne fait pas grand-chose comme sport. On ne parle pas assez du périnée des hommes.
Il est bien assis au
chaud. Vous avez vu, je m'inquiète pour vous, c'est gentil quand même. Hein,
ouais. Ma prostate vous remercie.
C'est ça.
Vous savez, par exemple, les marathoniennes, on se dit elles sont super musclées, super minces et tout, elles ont des périnées extraordinaires. Eh bien non, elles ont souvent des périnées très, très abîmées. Parce qu'en fait, c'est des sports avec impact. Et donc, en fait, oui, il y a des sports qui l'abîment. Et à l'inverse, vous avez des sports comme le yoga, comme les pilates, qui, au contraire,
le
tonifient, qui le font travailler, qui l'intègrent dans la pratique sportive.
Alors. Après l'accouchement, il y a les rendez-vous médicaux, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, que vous notifiez dans le bouquin comme incontournables et qui ne sont pas forcément suivis par toutes les femmes. Vous dites, une fois qu'elles ont accouché, on oublie hein, le médecin, tout ça. C'est quoi ces rendez-vous? Elles n'y vont pas. Pourquoi les femmes?
Eh bien, elles n'y vont pas parce qu'elles se disent qu'elles peuvent régler tout toutes seules dans leur coin et que ça va aller et que ceci. Donc, vraiment non, vous vous faites les visites de sage-femme à la maison pendant le postpartum. Après, vous avez la visite postnatale à 6 semaines du postpartum et après la rééducation du périnée. Franchement, il faut le faire.
Alors, le retour de couche, je vous l'avais dit, il arrive assez rapidement, mais ça reste aléatoire, en tout cas pour les femmes qui n'allaitent pas. Est-ce que ça veut dire qu'on peut tomber enceinte très rapidement dès le prochain cycle?
Ah oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment une idée, même quand on allaite, ça c'est une grosse idée reçue. On peut tomber enceinte dès 3 semaines
après
l'accouchement.
Moi, j'avais pas compris, on avait prescrit une pilule pendant l'allaitement, effectivement.
Ah oui, ouais. Non, dès 3 semaines après la naissance, moi j'ai une patiente, je cite toujours un exemple, mais elle a eu 4 garçons en 1 an. Un enfant, elle est tombée enceinte de triplé 3 semaines après.
Ah oui, j'allais dire parce que 4 en 1 an, j'étais en train de faire le calcul, je me disais,
mais
aussi,
ouais, non, mais c'est impressionné. Au lieu de se dire, mais c'est bizarre son histoire, elle dit, ah, 4, quelle angoisse.
Ça, c'est ça.
Ah oui, des triplés et un après, c'est ça, non,
non.
L'inverse.
Ouais.
Et le Xanax juste après, quoi.
Ah, c'est ça.
Mon Dieu,
elle a failli divorcer, tout ça a été l'enfer.
Donc les femmes, ça veut dire qu'après un accouchement, elles peuvent tout de suite prendre une contraception. Laquelle c'est la mieux?
Ah bah alors, non, il n'y a pas de mieux. Ça, il faut faire une consultation, il n'y a pas de mieux. Alors là, surtout pas
on
en ce moment.
On peut avoir un stérilé tout de suite, par exemple?
On peut avoir un stérilé très rapidement, on peut avoir un implant, on peut reprendre certaines pilules, pas toutes. On peut faire des préservatifs. Parce que après, il faut quand même dire aux gens qu'on n'a pas forcément 200 rapports sexuels par semaine.
La première semaine?
Non. Non, déjà. Donc c'est pas la peine, des fois, de se jeter sur la contraception et plutôt de prendre le temps à 5 ou 6 semaines de revoir ça tranquillement avec une sage-femme ou un médecin.
Alors justement, vu que vous parlez de rapports sexuels, alors sexualité postpartum, c'est parfois un tabou, mais vous dites une chose importante, c'est qu'on peut prendre du plaisir sans pénétration et donc on peut réussir un rapport sexuel.
Oui, ça souvent les gens oublient.
C'est vrai que c'est un truc qu'on n'y pense pas. On se dit bah forcément il va falloir s'y remettre quoi, mais on pense à la complète quoi, je veux dire. Mais
Oui, en fait c'est un peu dommage parce que on peut commencer par là. Après souvent les femmes me disent ouais non mais moi ça me suffit pas. Bon d'accord ok donc on verra ce qu'on peut faire, mais oui bien sûr la sexualité ce n'est pas que la pénétration.
Bien sûr ça peut faire plaisir à tout le monde. Alors on va passer donc on est dans ce sujet de la sexualité, mais quand même à un moment donné on a peut-être envie de reprendre les choses de façon concrète et complète on va dire. Physiologiquement une femme est capable d'avoir un rapport sexuel avec pénétration. Enfin, je veux dire, il y a des contre-indications avant un certain temps. C'est à partir de quand qu'on peut reprendre
ça? Non, c'est pas parce que je suis sage-femme que j'ai le droit d'apprendre aux gens à descendre les escaliers. Non, ils peuvent reprendre dès le lendemain de l'accouchement, comme ils peuvent reprendre un an et demi après.
Ça peut être un peu abîmé, c'est pas dangereux.
Non, mais ça dépend de l'accouchement qu'on a eu. Il y a des femmes qui. Enfin, vraiment, je pense qu'il faut laisser les gens faire.
C'est celles qui remettent leur jean là, en sortant de la maternité, leur jean de taille
36. Oui, mais
là,
aussi leur dire quand même que seulement à peu près à 2-3 mois, seulement 50% des couples ont repris des rapports. C'est-à-dire à la fois leur dire vous faites ce que vous voulez, mais en même temps leur dire la majorité des gens, ils n'arrivent pas à reprendre.
Il n'y a pas de contre-indication physiologique en tout cas.
Non, alors sauf bien sûr s'il y a des points de cicatrices, des épisiotomies, de déchirures, une cicatrice de césarienne et tout ça, on est bien d'accord. Ouais. Là, bien sûr, vous demandez aux praticiens de la maternité qui vous disent.
Et on est d'accord que ces rapports sexuels doivent être indolores, on ne doit pas avoir de douleur pendant ce rapport, c'est pas normal d'avoir mal.
Absolument, la sexualité, c'est pas fait pour avoir mal. Si ça vous fait mal, vous consultez. Il faut trouver une raison. Peut-être que c'est la cicatrice qui est un peu kératinisée, qui fait mal, enfin qu'il faut masser, etc. Peut-être qu'il y a un problème de sécheresse vaginale, peut-être qu'il y a... Enfin, on va forcément trouver quelque chose.
On vous les pose, ces questions-là, autour de la sexualité. À qui on les pose, d'ailleurs? La sage-femme, elle peut nous répondre à ces choses-là.
Ah oui, les sages-femmes,
osent, les femmes, vous en parler de ces choses-là?
Oui, moi, je parle de sexualité toute la journée, bien sûr.
Elles ont un petit bébé, mais Anna Roy, elle parle que de sexualité.
Non, mais même les femmes enceintes et tout, bien sûr qu'elles osent. Avec les sages-femmes, elles osent très facilement. Et il faut.
Et du coup, si par exemple les rapports sont un peu difficiles, est-ce qu'on peut proposer des lubrifiants? Est-ce qu'il y a des choses que vous conseillez du concret? Parce que c'est vrai que vous êtes quasiment une sexologue en fait, sachant en postpartum, on parle
Ah oui, non mais par exemple, c'est vrai qu'avec l'allaitement, vous avez une baisse de la lubrification. Les femmes ne le savent pas, elles se disent « Ah là, j'ai plus de désir ». Mais non, c'est juste l'allaitement. Et un petit lubrifiant fera l'affaire et ça change tout. Oui, il y a toujours des solutions. Même si vous avez une cicatrice qui est un peu douloureuse, hop, je prescris 10 séances de massage chez le kiné, il masse la cicatrice, terminé, il n'y a plus de douleur. Il y a toujours, ou des fois il y a des infections. Enfin, c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire c'est dans ma tête, c'est parce que j'ai plus de désir, Non. Vous venez nous voir, on trouvera une solution.
Parce que les sages-femmes, elles viennent à la maison de temps en temps, c'est pas systématique, mais ensuite elles reviennent vraiment vous voir en consultation, elles ont le temps parce que souvent on se dit.
Il faut qu'elles prennent le temps. Oui. Parce que vraiment, ces femmes qui traînent pendant des mois et qui du coup n'ont plus de sexualité alors qu'en fait il suffisait de masser la cicatrice ou il suffisait de traiter une mycose qui était là mais dont on savait pas qu'elle était là, c'est quand même hyper idiot quoi. Parce qu'après, ça crée des problèmes dans le couple.
On y a tout droit, la sage-femme à domicile, toutes
les
femmes.
Mais oui, toutes. Ouais. Et puis après, vous consultez même à leur cabinet. C'est-à-dire qu'en fait, parce que du coup, les hommes, en plus, dans le couple, se disent « elle a plus de désir pour moi, elle m'aime plus ». Donc vraiment, ça peut créer des problèmes. Quoi.
Merci beaucoup, Anna Roy, d'avoir répondu à nos questions.
Merci
et pour votre franchise. Hein, je rappelle votre livre « Une mine d'infos de conseils rassurants pour les femmes, la vie rêvée du postpartum » aux éditions Larousse. Merci encore, Anna.
Europe 1.
Dans un instant, dans notre chronique Bien chez soi, le docteur Jimmy Mohamed va partir en guerre contre les acariens et les moisissures dans nos intérieurs. Si vous êtes allergique ou asthmatique, ça va particulièrement vous intéresser. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Faites de votre logement un cocon où vous vous sentez bien, avec un air intérieur plus pur, plus propre. Le rendez-vous bien chez soi avec les purificateurs d'air Dyson.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les jours. Alors à présent, on va passer à notre séquence du vendredi, Bien chez soi. On part à la chasse aux acariens et aux moisissures aujourd'hui dans nos intérieurs. D'ailleurs, savez-vous où ces petites choses adorent particulièrement se nicher? Comment éviter leur prolifération? Et pourquoi d'ailleurs il faut les traquer pour le bien de notre santé? Notre journaliste Valentin Piovesan a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Je pense que c'est beaucoup plus facile de repérer des moisissures chez soi que des acariens, parce que des moisissures, voilà, ça va être des taches sur le mur, des déformations.
Les acariens, on les voit pas forcément, ils sont des organismes microscopiques. Hein.
Ça se loge un peu partout, donc c'est surtout à ce moment-là une allergie qu'on peut faire.
Ce qui tue les acariens, c'est le froid. Voilà, donc le matin, quand vous vous levez, vous ouvrez votre lit.
Laver fréquemment, nettoyer, ne pas laisser s'installer une zone d'humidité et de chaleur qui favorise la moisissure et la carie.
Encore que qu'il ne faut pas vivre dans un milieu qui est trop humide, parce que sinon, je pense que le problème ne va jamais se résoudre.
Dans des pièces type salle de bain, des pièces qui ne sont pas aérées et qui sont soumises à l'humidité constamment.
Je n'ai ni problème de moisissure, ni d'acariens, ni de rien, parce que je pense que j'aère suffisamment.
Alors Jimmy, vous êtes armé de votre tapette à moisissures et acariens. On va commencer par décrire peut-être ce dont on parle, les moisissures d'abord. Bon, on voit tous à peu près à quoi ça ressemble du moisi, par exemple dans les joints de la salle de bain de certains, mais c'est fait de quoi la moisissure ?
Alors les moisissures sont des champignons qui sont invisibles à l'œil nu. Elles arrivent dans nos maisons par les courants d'air, les humains, les hommes et même par le biais des animaux domestiques. Et pour se développer, pour grandir, les moisissures ont quand même besoin d'une certaine ambiance, notamment d'eau et de matières nutritives, comme par exemple du carton ou même les joints de votre salle de bain.
Non, pas la mienne, la vôtre, j'espère. Alors, ok, du côté des acariens, on va y venir. À quoi ressemblent ces bébêtes dégoûtantes hein ? Parce que vraiment, hein, vous qui nous écoutez, je vous invite à aller voir sur Internet. Un acarien, c'est invisible, mais c'est vraiment très moche.
Eh oui, j'ai mené mon enquête. Les acariens appartiennent à la famille des arachnides.
Wow.
Comme les araignées et les scorpions.
C'est pour ça que je les aime pas, j'aime pas les araignées.
Et ils possèdent 4 paires de pattes, des poils et mesurent entre 0,2 et 0,4 mm de long, donc impossible de les voir. Mais partez de principe qu'ils sont partout et qu'il peut y en avoir dans vos cheveux, et particulièrement dans les endroits chaud comme le linge de lit, les oreillers, les vêtements, mais aussi dans la poussière de maison, notamment sous les tapis et au niveau des rideaux.
C'est horrible d'imaginer ces petites araignées invisibles qu'il y a partout. Moi, ça m'angoisse. Alors, je reviens sur les moisissures, Jimmy. On les trouve où particulièrement et en quoi elles sont vraiment pas bonnes pour notre santé finalement ?
Alors, les moisissures, elles se retrouvent dans des endroits humides et mal ventilés, d'où souvent dans les salles de bain on peut les retrouver, mais aussi partout dans la maison, là où il y aura de l'humidité. Alors, vous allez facilement les repérer. Ça va correspondre à des petites taches verdâtres ou noires au niveau des murs, des plafonds. Ou des tapis, ou même autour des fenêtres. Tiens, j'en ai vu ce matin. Et puis sinon, l'odeur de moisi peut aussi jouer une odeur de terre. Ça peut aussi vous alerter.
Ouais, l'odeur des moisi, on la connaît quand même.
Et,
ouais.
Et c'est pas bon pour la santé. Les moisissures dispersent dans l'air ambiant des petites particules qu'on peut respirer et qui peuvent entraîner des problèmes respiratoires, notamment chez les patients qui sont allergiques.
Bon, terminons Jimmy sur les moisissures. Après, on va revenir aux acariens. Pour s'en débarrasser et les éviter, bon, si le logement est sain, bien sûr, hein, parce que parfois c'est plus compliqué, est-ce que vous avez 2-3 conseils ?
Alors, le maître mot, c'est l'aération encore et toujours. Pour limiter ce phénomène de condensation, et bien éviter notamment aussi les eaux stagnantes et actionner votre VMC. Surtout, ne la bouchez pas en hiver, on a tendance à mettre du scotch pour limiter les courants d'air. Et puis, Mélanie, il n'y a pas de secret, il faut faire le ménage.
Ouais,
dès la moindre petite tâche, et oui, avec n'importe quel nettoyant, voilà. On récure, on frotte, on astique, et le problème s'en va.
Ah ouais, on voit vous êtes un pro du ménage. Jimmy, les acariens, comment ils nous rendent malades ces mini bébêtes ridicules là, que vous nous avez décrites ?
Alors, les allergènes sont présents dans les déjections, dans le caca. Vous
c'est le caca
compris.
Des acariens qui nous rend malade.
Exactement,
ah,
et donc
d'accord.
Plus il y a d'acariens,
plus il y a de caca,
y a de caca, et donc vous allez inhaler ces petits débris, les déjections. Vont donc provoquer des symptômes respiratoires comme la rhinite allergique, les yeux qui pleurent ou même de l'asthme.
Jimmy, comment on combat le caca d'acarien, s'il vous plaît ?
On le combat le mal par le mal avec un aspirateur, une machine à laver. C'est les principaux ennemis des acariens, de ces petites bébêtes. Et donc, pour les éliminer de façon total, eh bien, il faut astiquer, il faut récurer. En revanche, si on veut essayer de faire chuter leur population, il faut nettoyer régulièrement cette poussière, échanger les draps et puis encore une fois, aérer encore et toujours.
Aérer, nettoyer, on a compris.
Et les acariens, ils adorent la chaleur. Donc, ouais. On ne surchauffe pas un logement, 20 degrés maximum et dites au revoir aux acariens.
Si ça ne suffit pas parce que c'est difficile de combattre toute la population, bah rendez-vous chez l'allergologue, hein, je crois. Parce
exactement,
que bon, voilà,
ça marche aussi.
Donné, très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions et ces conseils très, très pratiques aujourd'hui. Hein, monsieur propre un peu. Hein.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Avant ça, un peu de musique avec Mylène Farmer et un grand classique sans contrefaçon.
Yeah.
c'est la grande Mylène Farmer sur Europe 1 avec son titre Sans contrefaçon.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Bien sûr, nous sommes avec vous depuis 15h. Alors Catherine Blanc entre à l'instant dans ce studio pour sa chronique tous les jours à la fin de cette émission. Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Et aujourd'hui, on va finir la semaine avec cette question de Justin. On l'écoute.
Lors de mes repas avec mes amis, on expose un petit peu toute sa vie sexuelle de manière assez libre. Mais lors du dernier repas, j'ai un ami qui nous a fait part de ses plans d'un soir. Et personnellement, moi, ça me dégoûte. Je comprends pas comment on peut aimer ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'attirant dans ces pratiques ? Merci beaucoup pour votre réponse et passez une excellente journée. Au revoir.
Alors Catherine, qu'est-ce que vous pensez donc du dégoût qu'exprime Justin dans cette question ? C'est vrai que pourtant c'est quelque chose qui a l'air d'être assez accepté aujourd'hui, les plans d'un soir. Bon, les jeunes célibataires, pourquoi pas ?
Oui,
pourquoi
bien
ce
sûr.
Dégoût comme ça à ce point-là ?
Alors, certainement parce que Justin a besoin justement qu'il y ait une histoire entre deux individus. Ça ne veut pas dire une histoire amoureuse, mais une histoire. C'est de ne pas être un objet, l'objet de l'excitation de l'autre, mais bien un sujet en relation avec un autre sujet. Et que c'est assez dégoûtant pour lui de se retrouver justement coincé dans le fait d'être l'objet de l'autre ou coincé dans cette position assez dominante d'utiliser le corps de l'autre.
Mais c'est pas lui qui le fait, c'est quelqu'un d'autre qui le raconte. Alors pourquoi ça le touche à ce point ? Parce qu'il parle vraiment de dégoût quand même, hein, c'est fort, je trouve.
Eh bien, peut-être d'abord, alors, la situation la plus dramatique serait parce que ça renvoie à une histoire personnelle, d'avoir été objet ou de se sentir hanté par la culpabilité d'avoir utilisé l'autre d'une manière ou d'une autre, même dans les jeux d'enfants ou des choses comme ça. Et que du coup, il combat cette position par une position très affirmée à l'inverse, qui est une position de relation. Je crois que quand on est agressé par des choses à l'extérieur, ça donne l'occasion de s'interroger sur ce que ça raconte de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas matière à reproche éventuellement sur l'extérieur, mais ça raconte quelque chose de nous et que ça, c'est tout à fait audible. Et puis, on a tous des limites en fonction de nos histoires, de toute façon.
Parler de dégoût, moi je parle de dégoût quand je mange quelque chose qui ne me plaît pas. En matière de sexualité à ce point-là, et surtout quand ça ne nous concerne pas directement, je trouve ça fort ce terme de dégoûtant.
Oui, mais parce que ça renvoie et au goût et au dégoût, donc l'attirance, l'excitation et puis l'impossibilité inverse.
Moi, les andouillettes, ça me dégoûte, par exemple, parce que je trouve ça pue, voilà, mais là, il n'y a pas d'image, c'est alors, quelqu'un qui raconte quelque chose.
Voilà, alors on va évidemment ne pas faire référence à votre exemple, qui est l'andouillette.
Mais oui, mais c'est le plat qui me dégoûte le plus.
Qui est d'ailleurs, on ne lui dit rien sur sa forme ni sur son odeur particulière, qui renvoie quand même à notre sujet.
J'avais pas pensé à ça, vous voyez, mais bon, d'accord, je donnais juste une référence culinaire.
Et bien voilà, et bien.
On a le droit d'aimer ça, bien sûr.
Voilà, on a le droit d'aimer ça et on a le droit d'être dégoûté par tout ce que ça renvoie, évidemment, de notre histoire personnelle et de nos associations d'idées. Et c'est ça qui est intéressant dans la sexualité, en tout cas dans l'analyse de la sexualité. Arrêtons simplement de la subir, d'aller dans une direction, de subir ses interdits ou de subir ses possibles. C'est intéressant de s'arrêter sans que ce soit tempête sous un crâne. N'ayons pas peur de réfléchir, d'avoir un cerveau pour penser notre sexualité. Et là, en l'occurrence, il écoute quelqu'un qui évoque ses coups d'un soir.
Il aurait dû lui dire d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui se livrait sur ses coups d'un soir, mais après tout, il dit on est dans des dîners où on parle tous librement de sexualité. Est-ce que là, du coup, on a le droit de dire à l'autre, tout ce que tu es en train de raconter me dégoûte. Non, il ne faut pas exagérer quand même.
Le droit, si, bien sûr. Bien sûr qu'on a le droit. C'est assez incroyable que nos positions d'adultes, qu'on devrait vivre comme étant des positions d'être libre par rapport à un enfant qui est plus dans la difficulté. Le pire, c'est que nos positions d'adultes nous obligent aujourd'hui à avoir un comportement social dit
cool, à la cool,
cool et correct pour notre société. Hier, quelqu'un qui aurait parlé de ça était un horrible pervers. Aujourd'hui, c'est difficile d'ailleurs de dénoncer le pervers puisqu'on est censé tous pouvoir tout entendre. Je crois qu'il faut pouvoir dire « Écoute, moi, ça, c'est pas ma tasse de thé, si on pouvait parler d'autre chose, et qu'on parle de politique, ou qu'on parle de société, ou de plantation, ou que sais-je. » On n'est pas obligé de s'infliger la sexualité de nos voisins. Et même si on peut se dire « C'est bizarre », mais moi, ça me fait un truc fort. Alors que pour le voisin, ça a l'air de ne rien faire. Mais je crois que c'est important. Nous avons le droit de dire, écoute, on ne peut pas changer de sujet, où ça va. Parce qu'en plus, si ça se trouve, l'homme en question qui raconte ses coups d'un soir, si ça se trouve, il ne les vit pas en plus.
Puis les mythos, oui, c'est ça. En fait, on n'en sait rien, c'est
mais
ça.
Mais bien sûr, parce que s'il est tout seul, ou parce que... Alors d'ailleurs, l'histoire ne le raconte pas, mais est-ce que ce qui le dégoûte, c'est parce que ce personnage est justement en couple et raconte ses coups d'un soir?
Ah, on n'a pas les détails.
Ou ouais. Au contraire, c'est quelqu'un qui est célibataire et qui, pour ne pas être un laissé pour compte, a besoin de dire combien c'est tellement formidable d'être célibataire.
Libre
puisque ça permet
de pouvoir aller à droite, à gauche, de butiner partout. Ouais.
Voilà, pendant que les autres ont des sexualités à papa. Et bien tout ça, ça parle pas nécessairement de la réalité de cette autre personne. De même, le dégoût que ressent Justin, eh bien, n'est pas nécessairement le reflet de ce qui se joue pour cet autre homme, mais bien pour lui-même et de sa propre culpabilité ou sa propre difficulté sur ce sujet-là. Ou son propre désir qui voudrait peut-être tendre vers ça.
C'est une autre chronique, on y reviendra.
Et qui le culpabilise.
Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, on vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à tous.